quelques jours avant le scrutin du 3 octobre et on en profite pour reparler aux candidats de Duplessis qui auront cette fois à répondre à quelques questions en vrac qui concernent des enjeux de Fermont. Et le candidat aujourd'hui que je reçois, c'est celui du Parti conservateur du Québec, Roberto Stéa. Bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va super bien, madame, en pleine forme.
Excellent, parce qu'on a plusieurs questions à travers lesquelles on va passer ce matin. On commence en parlant de navettage. On aimerait savoir, c'est quoi votre vision du navettage à Fermont, s'il faut le réduire, et selon vous, si oui, là, si comment est-ce qu'on pourrait faire ça, à votre avis?
Bien, moi, d'entrée de jeu, là, ce que je comprends de ce qui se passe présentement en campagne électorale, vous allez entendre un paquet de promesses puis un paquet de solutions qui sont émises par l'ensemble des candidats. J'ai pas de solution miracle, là, puis je veux pas vous compter de mentir à personne. Ma réponse concernant le navettage, bien, si on regarde la situation actuelle, c'est un besoin, c'est nécessaire dans le cadre de certains projets miniers. Je crois qu'il y a des équipes au complet qui dont les emplois dépendent du navettage. Et ce qu'on doit faire, c'est de regarder la situation, l'analyser avec les gens du milieu. J'ai rencontré le maire lors de mon dernier passage à Fermont et je pense que vous êtes les mieux placés pour demander au gouvernement des actions concrètes en ce qui vous concerne.
On passe maintenant aux réalités nordiques. On sait à Fermont, on est dans un contexte particulier, ville minière, mais on reste quand même une ville avec des habitants et tout ça. Donc, on a plein de petites questions par rapport au développement, à l'éducation, aux aînés, tout ça. D'abord, je sais que vous voulez pas aller nécessairement dans les promesses et tout ça, mais qu'est-ce que votre parti pourrait apporter à la ville de Fermont et ses habitants pour leur permettre d'avoir certains avantages là, qui seraient liés à leur réalité nordique?
Oui. Bien, premièrement, moi, si je suis élu, parmi l'ensemble des candidats, je suis un des candidats, probablement le candidat qui a le plus d'expérience et qui connaît mieux les réalités nordiques. Le mur de Fermont, qui a été construit il y a plusieurs années, s'inspire d'un modèle scandinave à Kiruna, au nord de Suède. J'ai déjà été, moi, dans ce secteur-là, rencontrer les gens il y a plusieurs années. Et on peut s'inspirer des réalités nordiques aussi de pays scandinaves et tenter de les appliquer, comme ce fut le cas à Fermont. Je sais, comme je vous disais, j'ai rencontré le maire. Avoir un statut spécial pour les villes nordiques isolées. Moi, je pense que Fermont, c'est le meilleur exemple au Québec. Et je nous compare avec l'Abitibi, là, pour avoir un statut spécial, une reconnaissance d'un statut particulier nordique qui permettrait d'avoir une fiscalité adaptée à nos besoins pour pouvoir faire croître le secteur de Fermont, qui est un secteur en pleine ébullition.
Quand vous avez rencontré le maire de Fermont, d'ailleurs, vous avez eu accès à la liste des différentes priorités que la ville a mis en place, que le conseil municipal a approuvé là, dernièrement. La ville qui souhaite se développer, mais aussi bien se développer. Et pour ce faire, il y a la construction, la rénovation de logements, le développement de nouveaux quartiers, tout ça. C'est nécessaire, mais c'est complexe, c'est coûteux, c'est long. Les gens souhaiteraient avoir davantage de financement pour des programmes de rénovation, de construction, d'aide à l'habitation. Peut-être avoir aussi des tarifs préférentiels sur l'hydroélectricité, par exemple, c'est des exemples. Vous, si vous devenez député de Duplessis, est-ce que vous serez en mesure de soutenir la ville dans ces différents projets-là de développement tout en tenant compte là, des coûts nordiques réels qui sont plus élevés que dans le sud du Québec?
Bien, tout à fait. Puis vous me parlez de la liste, là, je l'ai devant moi. On parlait d'obtenir des crédits budgétaires gouvernementaux pour financer le programme de rénovation Réno-Fermont 2023-2027. Bien, ça, ce sont des ententes qu'on doit passer avec le ministère des Affaires municipales. Notamment. Moi, ma présence au Parlement de Québec, je vous dis, je vais jouer un rôle important en matière. Je suis déjà reconnu là, au sein de mon parti comme ayant une expertise en matière des relations avec les Autochtones, directement avec M. Duhem, ainsi qu'avec tout ce qui est nordique, développement du territoire nordique. Je vous rappelle, j'ai une formation en géographie et aménagement. Et j'ai aussi une expérience de négociation avec des ministères au gouvernement du Québec. Je vais quand même être très à l'aise pour cheminer les dossiers au sein de l'appareil gouvernemental qui est complexe. Et moi, j'ai toujours dit que ma présence au Parlement, c'est pour amener une voix forte de Duplessis, parce que il y a personne qui parle correctement de Duplessis, puis on comprend pas la réalité à Québec. Moi, je la comprends très bien, et c'est là-dessus que je veux travailler. Et je vous dirais, j'ai eu une excellente rencontre avec M. Saint-Laurent. Il me parlait, là, puis on se comprenait. Il y a pas besoin de me faire un cours là de 40 heures pour que je comprenne les priorités de Fermont. Je les ai compris très rapidement.
Si je me fie un peu à votre réponse, j'imagine que vous êtes aussi d'avis que les conditions de travail en éducation, les éducatrices en CPE dans nos écoles aussi, devraient peut-être bénéficier davantage dû à notre éloignement des grands centres?
Oui. Je vous dirais que la question des CPE, ça doit faire 3 ou 4 fois qu'on a des débats. J'ai rencontré la directrice régionale des regroupements des CPE. J'ai rencontré la CSN également là-dessus. Et ce qui en ressort, ben c'est la première chose, c'est de reconnaître la prime d'éloignement, la prime, je crois, en tout cas, je sais qu'à cette île, on ne reconnaît pas cette prime-là de rétention, on l'appelle à cette île, mais chez vous, c'est une prime d'éloignement nordique. Je suis pas convaincu qu'elle est appliquée, corrigez-moi si je me trompe. C'est des demandes de la part et des syndicats et des regroupements. Je pense que c'est une priorité. Et de reconnaître aussi la profession à son juste titre au niveau salarial, là. On demande des diplômes d'études collégiales pour travailler là. Je pense que les gens qui travaillent en milieu de CPE devraient être reconnus à leur juste titre avec le salaire qui vient avec.
Si on parle des aînés maintenant à Fermont, bien que notre population soit quand même jeune, on a aussi une portion de personnes qui sont plus âgées, des travailleurs à la retraite ou sinon des gens qui veulent finir leur vie à Fermont ou qui voudraient rester encore quelques années. Il y en a de toutes sortes, là. Cependant, on manque de services pour eux. On manque de logements. On en a parlé des déplacements ou aussi ça peut compliquer les choses en santé. Croyez-vous que la construction d'un centre de personnes âgées ou sinon de personnes retraitées avec services, ce serait nécessaire dans un milieu comme Fermont, même si on n'a pas tant d'aînés que ça comparativement à d'autres endroits? Croyez-vous que ce serait nécessaire dans notre milieu?
Oui. Une chose que j'ai retenue de mon voyage à Fermont, c'est qu'avant de partir, j'ai croisé un retraité qui se promenait en moto. Je le salue, il avait une moto 3 roues. Il avait l'air tellement heureux d'être à Fermont. Et là, ça m'a étonné parce que ce qu'on comprend, c'est qu'une fois que tu as fini de travailler à la mine, par exemple, ben, les gens ne peuvent plus rester, doivent quitter. Hein? C'est un phénomène là qu'on connaît depuis longtemps. Moi, je suis entièrement pour le fait que les gens qui désirent demeurer à Fermont une fois leur retraite entamée puissent continuer de vivre à Fermont. On ne peut pas déraciner des personnes retraitées puis les envoyer dans les grands centres à Montréal. Une des priorités régionales, c'est de freiner la chute démographique. Oui, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'on devrait avoir des possibilités de vivre et de vivre dignement sa vie à Fermont, même une fois retraité. C'est facile à dire, c'est difficile à faire. Il faut qu'on travaille avec les entreprises qui sont en place, parce que la dynamique d'habitation à Fermont, je n'apprends rien à personne, et dépend fortement de la présence des compagnies minières là, qui détiennent plusieurs actifs immobiliers à Fermont. Alors, je pense que la voie à suivre, c'est de s'asseoir avec eux et avec le gouvernement du Québec pour développer des projets d'habitation pour les personnes âgées.
En termes de transport de marchandises maintenant, dans les dernières entrevues, on parlait surtout de transport sur la route 389, le déplacement des gens, mais pour ce qui est de la marchandise maintenant, c'est aussi une problématique, ça coûte cher faire venir du matériel à Fermont. Entre autres, on pense à la construction, faire venir du matériel de construction pour construire des nouveaux logements, ça peut coûter cher. C'est la même chose aussi à l'épicerie, dans différents commerces ici. Croyez-vous, Monsieur Stéa, qu'avec une personne comme vous pour représenter Duplessis, le prochain gouvernement pourrait créer un crédit fiscal pour les entreprises commerciales qui viseraient à amortir un peu les coûts du transport de marchandises en région éloignée ici à Fermont?
Ouais. Moi, j'aimerais faire reconnaître, là, puis ça va dans l'esprit du conseil municipal, un statut particulier pour les villes nordiques. On l'a avec le plan Nord. On dit que le plan Nord, ça commence au nord du 49e parallèle. Bien, l'affirmer, le mettre sur papier, c'est une chose. Ça veut dire qu'on commence à reconnaître que partout au Québec, ce qui est au nord du 49e, on le considère nordique, mais on est capable d'aller plus loin aussi puis d'ajuster notre fiscalité à ce paramètre-là nordique. Et la communauté de Fermont est encore plus isolée Les coûts des matériaux, le transport des marchandises, c'est rendu inabordable et on a presque plus de projets de construction. C'est la même chose à cette île. Absolument, un crédit d'impôt, une fiscalité, des programmes, des mesures spéciales. Puis c'est ça, moi, que je me distingue comme futur député de Duplessis, c'est que les programmes mur à mur de Québec, élaborés à Québec, ont de la misère à s'appliquer. Ça s'applique pas sur la Côte-Nord. Et ça, j'ai des centaines d'exemples. C'est pas juste dans le transport de marchandises puis dans le coût des matériaux. Puis on est rendu aujourd'hui que ça prend un député d'expérience qui est capable d'expliquer la complexité territoriale, sociale et environnementale de notre si belle région au Parlement de Québec. C'est terminé là de suivre puis de marcher le dos courbé.
Si on continue de parler de développement, on parle d'Hydro-Québec, maintenant on a des besoins en énergie ici à Fermont pour pouvoir faire avancer certains projets en fait. Est-ce que vous seriez prêt à appuyer justement ces projets de notamment la décarbonation des entreprises minières et aussi le projet de développement d'un parc industriel et tout ça en comblant le déficit énergétique du secteur de Fermont? Ce qui est proposé, ce serait la construction d'une nouvelle ligne de transport de 315 kV entre le poste montagnier et celui de Fermont. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Je tiens à mentionner à vos auditeurs que je travaille pour Hydro-Québec présentement depuis 5 ans. C'est difficile pour moi d'énoncer publiquement certaines choses à l'égard d'Hydro-Québec pour ne pas mélanger les deux, là, le Roberto le candidat et Roberto l'employé d'Hydro. Je pense que tout le monde comprend ça. Par contre, je vous dirais que les discussions que lorsqu'on s'est rencontrés, Monsieur le maire et moi-même, toutes ces questions-là, c'est les questions sur lesquelles j'avais le plus de facilité. Je suis un géographe de formation, je travaille chez Hydro et je connais la dynamique là, de transport d'électricité puis tout ce qui peut avoir rapport à la production, au transport, etc. Oui, absolument. Et on est capable même d'aller plus loin. C'est certain qu'en tant que député, moi, je vais avoir de la facilité, peut-être plus que les autres candidats, à développer et à rendre concrète les demandes de la ville de Fermont en cette matière. Et oui, je suis très sensible à ça. J'ai compris tout de suite ce qui se passait. Puis absolument, pour répondre à votre question, absolument, mais vous comprendrez que je dois faire quand même preuve de réserve. Là, je suis à l'emploi d'Hydro-Québec.
Bien sûr, il n'y a pas de problème. J'aimerais qu'on parle aussi de l'écoute des habitants. C'est une question qui revient souvent là, chez les électeurs de Fermont jusqu'à maintenant. On le sait, les candidats, vous êtes tous d'accord sur le fait de devoir être à l'écoute des habitants pour mieux répondre à leurs besoins si vous devenez le député de Duplessis. Par contre, dans plusieurs dossiers de Fermont, les résidents ne se sentent pas toujours écoutés ou appuyés. Je donne l'exemple du projet d'agrandissement du parc à résidus de la Halle d'Astéril du Lac Bloom qui a été non recommandé par le BAP, mais approuvé par le gouvernement. Les Fermontois, à ce moment-là, ont senti très peu d'écoute de la part des élus provinciaux. Ouais. Maintenant, il y a un autre dossier qui est en cours, celui du projet d'exploitation de quartz au lac Topard. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais c'est un lieu qui est situé près de Fermont, dans le même bassin versant que la source d'eau potable de la ville. C'est aussi un endroit qui est apprécié pour sa vue. Il y a plusieurs qui s'y rendent aussi pour faire du plein air. Comment est-ce que le futur député de Duplessis, M. Stéa, peut faire pour porter la voix des Fermontoises et des Fermontois et s'assurer que ceux-ci soient entendus, mais surtout que leur opinion soit vraiment prise en compte à l'Assemblée nationale dans le cadre de... C'est des exemples de dossiers, mais dans tous les dossiers, en fait.
Oui. Quand j'ai commencé ma carrière, là, fin vingtaine, début trentaine, j'ai été impliqué dans des grandes questions là, environnementales qui concernaient de larges publics. Un de mes grands dossiers, c'était lors des inondations du Saguenay, le déluge du Saguenay en 1996. Moi, j'étais directeur du Conseil régional de l'environnement. J'ai un passé environnemental impliqué dans la société là qui date de longtemps. Je me suis toujours impliqué d'ailleurs en protection de l'environnement, encore aujourd'hui à titre bénévole où je demeure, dans le secteur du lac Bègue à cette île. J'ai compris une chose, c'est que la première chose qu'il faut faire, c'est d'être à l'écoute des gens, de tenir des consultations. Pas bidon, parce que souvent, ce que j'ai vu dans des consultations, les dés étaient déjà pipés à l'avance et on tenait des consultations pour se donner bonne conscience. Moi, je crois qu'à la consultation des citoyens, des parties prenantes, comme on appelle. Là, on va consulter la compagnie, les ministères, etc., les groupes de pression, mais aussi les citoyens. Et ça, ça a autant de poids, sinon plus, que tout le reste. Parce que c'est la communauté qui va vivre avec les conséquences de ces gestes-là. Et les fonctionnaires, ce qu'ils vont faire, ils vont rembarquer dans l'avion, puis ils vont retourner à Québec, puis ils ne retourneront plus jamais de leur vie à Fermont. Moi, je suis un gars de la région, puis j'ai compris ça. Et j'ai fait ça toute ma vie. Je suis rendu à 55 ans, et c'est comme ça que je fonctionne. Je l'ai fait en Basse-Côte-Nord aussi, avec les collectivités de pêche anglophones, lorsqu'on a fermé les pêches au fédéral, et ces gens-là étaient laissés pour compte. Bien, une grande partie de mon travail consistait à tenir des assemblées publiques afin de recueillir les préoccupations des citoyens. Et je le faisais en anglais, imaginez-vous. Fait que oui, ça fait partie de mon ADN, ça, madame.
Et dernière question sur les différents sujets, ce serait sur l'accès à la villégiature. On se donne beaucoup de questionnements. En fait, ça peut être long et complexe, ouais, des fois, avoir un accès à la villégiature. Comment, selon vous, pourrait-on, ouais, faciliter cet accès-là sur l'état du domaine public pour les résidents de Fermont?
Très, ben, moi, je demeure, moi, présentement, dans un territoire non organisé. Et je côtoie de très près le ministère des Ressources naturelles. Je pense que le ministère des Ressources naturelles, qui octroie les baux de villégiature, a des pouvoirs immenses en matière de mines, de forêt et de villégiature au Québec. Et ce que je trouve triste, c'est que ça fait partie de la solution, c'est le contraire de ce que je trouve triste, c'est qu'on devrait redonner au MRC le droit d'octroyer les baux de villégiature directement par la MRC au lieu de passer par le ministère des Ressources naturelles. Encore une fois, des fonctionnaires bureaucratisés à Québec qui connaissent pas, qui n'ont jamais mis les pieds sur le territoire de Kaniapisiko. C'est géré à partir de Québec. Moi, je vis dans un TNO. Je n'ai pas le droit de vote au municipal parce que je fais pas partie de la ville de cette île. Puis ça fait 25 ans, madame, que je suis quotidiennement les activités d'une MRC. Et je trouve qu'on est rendu là aujourd'hui. On devrait donner un peu plus de pouvoir, notamment en matière d'aménagement du territoire. C'est pour ça qu'on a créé les MRC. Mais au-dessus des MRC, présentement, ce qu'il y a, il y a des ministères comme le ministère des Ressources naturelles qui se sont donné tous les droits et qui se situent au-dessus des pouvoirs des MRC. Je pense que la régionalisation, c'est de redonner le pouvoir aux citoyens et à nos structures politiques locales.
On a passé à travers plusieurs sujets de plusieurs questions, mais moi, ça fait le tour de mon côté, mais je ne sais pas si vous, de votre côté, ouais, M. Stéa, vous auriez un dernier mot pour les électeurs de Fermont avant le scrutin du 3 octobre?
Bien, vous allez entendre, là, et vous avez déjà entendu un paquet de promesses de la part des candidats et candidates. Vous avez remarqué que eux vont focusser beaucoup sur cette île, connaissent pas vraiment le territoire de Kaniapisiko. Moi, j'ai pas de recette magique. Je vous promets une chose, c'est de travailler pour l'ensemble de mes concitoyens dans Duplessis et d'être à l'écoute. Alors moi, ce que je demande aux gens, allez voter pour le changement. C'est important d'aller voter parce que le taux de participation était très, très faible. Et j'invite les gens, là, je vais demander à M. le maire, là, je pense qu'on a une belle rencontre, et les gens qui veulent me poser des questions, vous pouvez me rejoindre personnellement, j'ai aucun problème avec ça, là, à la maison, 418-961-2331, et il me fera plaisir de discuter avec vous et de me renseigner également sur votre réalité, parce que je connais pas tout.
Roberto Stéa, ouais, vous êtes le candidat conservateur, Parti conservateur du Québec dans la circonscription de Duplessis. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de Fermont une dernière fois avant le scrutin du 3 octobre prochain. Et on se dit, ouais, à bientôt.
Merci beaucoup. Allez voter.